Isabelle Cardozo-Fonkerl, vigneronne.
En sol majeur, Yasmin Chouaki.
En sol majeur.
Il y a des histoires qui ne peuvent échapper à notre petite entreprise en sol majeur. Celle d'Isabelle Cardozo-Fonkerl, par exemple. Vous imaginez, voilà un regard au miel qui a trempé ses yeux d'enfant dans l'océan Atlantique, en Guinée-Bissau, avec un petit peu de Cap-Vert dans son petit lait, et qui aujourd'hui taille des vignes dans une bande-son pleine de grillons, au milieu d'un coin de France profonde. Où ça ? Dans l'Hérault. L'héroïne est vigneronne, c'est pas compliqué, vous suivez tout droit, tout ciel bleu jusqu'au domaine de l'Oustal blanc, dans la Livinière, et vous y êtes. Là où le rouge et le blanc sont servis, je vous le dis, par un regard au miel de très grande qualité, je parle du vin et du regard. Médaille d'or au Challenge international du vin 2019. Bref, là où on trinque avec la philosophie du vignoble, en quatre mots, fruits, finesse, pureté et complexité. Il y a tout ça dans un verre de vin. Bonjour Isabelle Cardozo-Fonkerl.
Bonjour Yasmin Chouaki.
Il y a tout ça dans ce verre de vin.
Ah oui, toujours. Dans un verre de vin, il y a toujours des choses à dire. Alors sur le fruit, des arômes parfois complexes, élaborés différemment, avec des élevages en barrique, etc. Là, ça devient un peu plus complexe et là, on a pas mal de choses à dire autour.
Élevage en barrique, je le note. Oui. Quelque chose me dit que vous êtes venu avec un tire-bouchon dans le sac à main.
Oui.
On va passer aux choses sérieuses tout à l'heure. Je précise aussi que c'est une émission évidemment à savourer avec modération.
Bien sûr.
Je suis obligée de le dire. Alors en amuse-gueule, pour se rincer les oreilles, rien de tel que Césaria Evora, que vous avez programmé, Isabelle, avec Camino de São Tomé.
Oui.
Racontez-nous ce que vous évoque cette chanson.
Oh, ça m'évoque une séparation. Il s'en va vers Saint-Thomé, il la laisse, elle dit « Si tu m'écris, je t'écris. Si tu m'oublies, je t'oublie. »
Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Saint-Thomé. Mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Saint-Thomé. Saudade, 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 desse minha terra, Saint-Nicolas. Saudade, saudade, saudade. Minha terra, Saint-Nicolas. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Saint-Thomé. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Saint-Thomé. Saudade. Saudade, saudade, desse minha terra, Saint-Nicolas. Saudade, 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 desse minha terra, Saint-Nicolas. Se vou escrever, monta a escrever, se vou esquecer, monta a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, 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 desse minha terra, Saint-Nicolas. Saudade, saudade, saudade. Minha terra, Saint-Nicolas. soda, 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 desce minha terra sem inclar. Soda, soda.
Sao Tomé, vous êtes l'un d'entre nous, vous faites partie de l'histoire et de notre douleur. C'est ce que chante Cesaria Evora. Il y a beaucoup de tristesse, évidemment, dans sa voix et dans ses paroles. Alors, on est quoi, là, dans du créole capverdien, Isabelle ?
Tout à fait, tout à fait. C'est du créole du Cap-Vert. Cesaria Evora était de l'île de San Vicente, au Cap-Vert.
Donc, c'est presque chez vous, un de vos chez vous.
Exactement. Ah oui, oui, oui. Puis mes grands-parents paternels aussi étaient du Cap-Vert, originaires de Cap-Vert, mais d'île de Praia.
Isabelle Cardozo-Fonkerl, donc les deux pieds sur la terre et parfois à la cave, profession vigneronne.
Il paraît que le fœtus s'imprègne des goûts de la mer. Quels sont vos goûts les plus anciens?
Goût de la mer. Et surtout les week-ends en famille, quand on déguste des huîtres. Mais on ne déguste pas comme en France. C'est posé sur le barbecue et dès que ça commence à s'ouvrir, chacun récupère son huître et l'ouvre et c'est trempé dans une sauce citron, piment, sel.
C'est bien bon. Parce qu'il y a eu une petite confusion sur le mot mère.
Ah pardon.
Eh oui, non, mais c'est très joli parce que finalement on y arrive au goût de l'enfance. Voilà.
D'accord.
Donc je ne savais pas qu'on mangeait les huîtres comme ça.
Oui, toujours.
À Kanchungo, c'est là où vous êtes né.
Kanchungo, oui.
Voilà, ça jouxte, je crois, la Casamance sénégalaise au nord et au sud, ça fait trempette dans l'Atlantique.
Mmh.
Mais alors, les premiers goûts, à part les huîtres?
C'est plutôt sur des paysages avec des palmiers.
Ah oui, vous n'avez pas de mémoire comme ça?
Des mangues, voilà, les fruits. Ouais. Je n'ai pas d'autres souvenirs, puisque ma mère est allée dans une autre ville après.
Où ça?
C'est de côté de Gabou Bafata, ça s'appelle Kountoubouel. C'est la partie où il y a plus de musulmans, des Guinée-Bissau. Donc elle est allée aussi là-bas, parce que ma mère, elle allait souvent dans les endroits où elle pense que les enfants ont besoin d'aller à l'école.
Car elle était institutrice.
Elle était institutrice, donc elle était capable d'aller chercher les enfants quand ils sont absents. C'est l'un de ses élèves qui m'a raconté ça. Un jour, elle me dit « Grâce à ta mère, je suis là aujourd'hui. » Parce que quand on manquait les cours, elle allait nous chercher. Elle disait aux parents « Non, c'est pas l'heure de les amener, vous aider dans les champs. C'est l'heure de l'école. »
Sacrée maman.
Oui.
Vous êtes née l'année de l'indépendance
Presque.
De la Guinée-Bissau,
oui,
à
oui,
un an près.
Vous
étiez en 73.
Exact.
Quelle enfance vous avez eue?
Une enfance agréable. Entourée de famille. Et quand ma mère a dû quitter Guinée-Bissau, au début, je n'ai pas compris.
Donc, c'est séparation des parents, c'est ça?
Non, ce n'est pas dû aux séparations des parents. C'est dû à la politique, presque.
Racontez-nous.
Parce que je l'ai su aussi longtemps après que ma mère, en tant qu'institutrice, elle défend beaucoup des causes des femmes, des enfants, et un peu de la société aussi. Donc... elle a dû à l'aéroport Guinée-Bissau, devant des ministres, présidents, dire ce que beaucoup pensent, mais n'osent pas le dire. Et puis à l'époque, il faut dire aussi que c'était un parti unique. Voilà, il ne fallait pas trop dire ce qu'on pensait. Il y a donc une menace, mais je ne pense pas que ça venait, elle me l'a dit, elle ne pense pas que ça venait du président de la République. Mais c'est souvent des personnes... qui entoure, qui s'octroie le droit de dire, elle n'a pas le droit de dire ça. Et donc, ils ont envoyé un message à mon oncle, le grand frère de ma mère, qui était à l'époque directeur d'une brasserie, le seul qui a eu un Guinée-Bissau d'ailleurs, brasserie et jus de fruits, pour dire que si ma mère venait à disparaître, qu'il ne fallait pas poser la question. Et donc, très vite, dans la semaine qui a suivi, passeport, elle est partie vivre au Portugal.
Quand on vous pose la question des ancêtres, d'où vient cet arbre généalogique, vous répondez tout de go, vous êtes à la croisée de deux ethnies.
Oui, Manjak, dit en français, et Balanta. Manjak par mon grand-père et Balanta par ma grand-mère.
Alors j'ai vu que Balanta venait de Ibalanta, ça veut dire ils ont refusé. Il y a une histoire autour de ça. Mm-hmm. Vous la connaissez cette histoire?
Dites-moi. Je connais plein d'histoires sur les Balanta. Ce sont des guerriers.
Ce sont des guerriers. Au début du XVIe siècle, ils ont refusé de suivre le roi Peul Colin Tengela.
Ah oui.
Quand il était dans sa remontée vers le Fouta Toro.
C'est ça. Le Balanta, ça a toujours été un peuple. De résistance. Et d'ailleurs, l'héros de Guinée-Bissau, Amilcar Cabral, l'un des les plus connus des héros africains, avait fait appel aux Balanta pour le suivre sur ce combat contre le colon.
Comment ça se passait alors au niveau des langues et des cultures à la maison? Est-ce qu'on était dans un joyeux mélange de cultures bissau-guinéennes et capverdiennes?
Oui, complètement. Je ne parle pas ni Manjak ni Balanta. Je comprends quelques mots. Mais oui, c'était plutôt le créole et le portugais. Bien sûr, à la maison, on avait ces doubles cultures. En même temps aussi, on apprenait. Parce que le week-end, ma grand-mère nous amenait toujours au village de mon grand-père où il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Et nous, on avait tout ça à Bissau. Pour elle, voilà, on avait besoin aussi de voir ça. Et de respecter ce qu'on avait et la chance qu'on avait. Donc on a vécu ces deux cultures-là et apprendre vraiment la culture aussi. Manjak, pas à 100%, mais des cérémonies, quand est-ce qu'il fallait poser des pagnes, comment il fallait poser des perles sur le corps, etc.
Isabelle, vous avez été élevée dans une première vie au son de cet instrument.
Oui, on peut l'appeler boumboulon ou balafon. Et ce son exactement comme ça, ça me rappelle l'enterrement de mon grand-père. Je devais avoir 9 ans et ce jour-là, nous avons eu un accident. Sortie de Bissau pour aller à l'enterrement de mon grand-père à Caillou. On a eu un accident et il se trouve que j'étais la seule personne qui n'était pas blessée dans la voiture. Et ils sont venus nous chercher, les autres sont partis à l'hôpital. Moi, je suis arrivée juste après l'enterrement de mon grand-père, mais il y avait ce son. Puis après, il y avait des sages qui parlaient pour raconter la vie de mon grand-père. Et donc, ils disaient que mon grand-père m'a protégée. Et effectivement, j'avais un lien avec mon grand-père très fusionnel. Quand il préparait, enfin, il fumait la pipe, mon grand-père. Il préparait son tabac qu'il ramenait de village, il faisait sécher. Et le piler, je prêtais toujours main forte à mon grand-père pour piler le tabac. Et puis après, il me faisait sentir un petit peu, j'éternuais. Ça le faisait rire. Voilà, j'ai ce souvenir-là aussi avec mon grand-père.
La Guinée-Bissau, je ne sais pas si elle fait rêver dans votre bouche, après le récit que vous avez fait autour de votre mère institutrice, qui était un peu militante pour les droits autour de l'éducation et qu'elle aurait pu payer de sa vie, c'est ce que vous racontez. En tout cas, on sait que ce petit pays a connu beaucoup de coups d'État depuis son indépendance. Et d'ailleurs, aucun chef d'État n'est parvenu à la fin de son mandat.
Sauf un.
Mais qu'est-ce qui fait que vous partez rejoindre votre mère à un moment donné au Portugal, qu'est-ce qui... Non, c'est pas ça.
Elle est venue à Guinée-Bissau nous chercher. Après, elle est retournée au Portugal et en fait, elle est venue en France parce qu'elle avait de la famille. Je pense que d'ailleurs, c'est l'un des... Ils font partie des premiers Manjak qui sont venus en France.
Vous arrivez à 17 ans. Vos premières sensations, alors, chez les Gaulois?
C'était à l'aéroport, quand j'ai entendu parler français. Et là, je dis... j'avais des bonnes notes en français, mais je pense que c'était basique. Et l'accent de mon prof, qui n'était pas du tout le même. Là, voilà, je viens de rentrer. Là, ce sont des choses sérieuses qui vont commencer pour toi. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais voilà, je me suis dit, mais c'est ici que tu vas vivre.
Alors, on va être obligé de résumer votre parcours, parce que j'imagine qu'il y a des étapes, forcément. Mais comment vous vous retrouvez? Je ne sais pas ce que vous rêviez pour vous-même, comment vous vous projetiez dans l'avenir, Isabelle, mais comment vous vous retrouvez un beau jour, les mains et le nez dans le vin?
Oui, c'est très curieux. de Guinée-Bissau, forcément, je n'avais jamais même goûté un raisin. Et donc, forcément, je ne pensais pas du tout, mais à aucun moment, même le métier sommelier que j'ai entendu pour la première fois au Garrigues Lafayette, au Lafayette Gourmet, c'était inconnu pour moi. Donc, ce qui était autour de la géographie, j'aimais beaucoup. Et ça aurait pu être chimie aussi, parce que j'aimais bien maths, physique. J'avais des professeurs qui venaient d'ailleurs de Russie. On avait ces profs-là en Guinée-Bissau. Mais après, quand je suis arrivée ici, eh ben, c'était plus ça, parce que je devais apprendre la langue. Et puis ma mère ne m'en parlait pas non plus. Tu pourrais faire ça comme métier ou l'autre.
Mais comment vous vous retrouvez à être une dégustatrice de talent?
Oui, en fait, je suis allée... ce sont des rencontres, je dirais.
Donc c'est le hasard, et le hasard va vous emmener assez loin. Vous allez intégrer un beau jour l'équipe d'un certain Bruno Quenu, qui est un grand sommelier.
Un philosophe du vin.
Un philosophe du vin, oui, carrément.
C'est quelqu'un... Il faut le rencontrer. C'est vraiment mon mentor. Et là, je découvre ce mot, sommelier. Alors, pour être là, ah bon? Et comment ça se passe? Donc, il m'explique rapidement. Il me dit, mais là, j'ai dit, mais là, je pars à Londres, carnaval. Alors, il me dit, mais à votre retour, alors vous venez? Mais c'était la curiosité, en fait.
Ouais. Alors, vous allez aller plus loin que vos compétences de grande dégustatrice. Vous allez donc créer ce domaine de l'Oustal Blanc dans la Livinière, le premier cru du Languedoc, en Minervois. Et comme vous avez l'air d'être un peu jusqu'au boutiste, Isabelle Cardozo-Fonkerl, vous suivez une formation de responsable d'exploitation.
Tout à fait.
Concrètement, c'est quoi?
Alors, à la base, c'est Claude Fonkerl, mon ex-mari, qui m'avait proposé de s'associer avec lui, parce qu'il était déjà vigneron. Mais pas dans le Languedoc, dans le Ventoux. Il m'a dit, viens, on y va, j'ai créé un autre domaine, est-ce que tu veux t'associer avec moi? Je sais que tu dégustes bien le vin. Et bon. Alors j'ai dit, pourquoi pas? Mais je pense que c'est mieux de faire une formation, de passer un diplôme pour mieux comprendre.
Donc ça comporte de la viticulture, de l'œnologie, de vinification. Je ne sais même pas ce que c'est. Vinification, c'est quoi?
C'est la fabrication du vin, la partie production de vin. Quand les raisins rentrent dans la cave, donc on les met dans les cuves. Donc il y a les processus donc de délestage, de remontage. Et on va suivre la fermentation alcoolique, on va faire des analyses au laboratoire aussi pour savoir où on en est. Et après la fermentation alcoolique, vient la fermentation malolactique, mais bien plus tard, où on laisse les raisins. On avait fait cette expérience de laisser les raisins dans les cuves jusqu'à ce que les fermentations malolactiques arrivent et ensuite presser. Donc ça, c'est la partie vinification. Et après, il y a la partie élevage. Donc on va mettre soit en cuve ou en barrique. Ça peut être 10 mois pour le vin d'entrée de gamme. On laisse 10 mois en cuve. Deuxième vin, on va laisser une partie en cuve barrique et à prima donna, qu'on aura l'occasion de déguster, c'est 100% barrique.
Vous avez votre tire-bouchon à portée de main?
Là.
En choisissant trois plats, pouvez-vous me dire de quel vin ils doivent s'accompagner?
Oui, alors avant de répondre à cette grande question, parce qu'on a tout orchestré là, et avant que vous ne mettiez un peu les petits plats dans les grands, Isabelle, j'aimerais bien savoir à quoi ressemble votre quotidien de vigneronne à la Livinière. Ça se situe entre Carcassonne et Narbonne. Hein.
Tout à fait.
Ça commence à quelle heure? Ça finit à quelle heure? Et les grandes étapes de la journée?
Alors, ça dépend des périodes. En ce moment, par exemple, je suis en pleine taille des vignes, parce que je taille les vignes toujours à partir de mois de mars, pour éviter le gel.
C'est vous qui faites ça avec vos petites mains?
Oui, j'ai deux personnes qui viennent aussi, mais j'y participe aussi parce que j'ai besoin de voir. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin aussi de surveiller ce qu'ils font parfois, parce qu'ils ne font pas ce que je demande forcément, parce qu'ils sont pressés.
Le regard au miel, c'est ce qu'il veut.
Exact. Donc oui, le mois de mars pour cette année par exemple, on a eu beaucoup de pluie, donc tout a été décalé et là je suis en retard. Donc je commence 7-8 heures. Après, je rentre à midi, déjeuner, et je retourne parfois jusqu'à 19h.
Sur votre tracteur?
Sur le tracteur aussi, parce que cette année, c'est l'année que je laboure. Je laboure tous les 2 ans. Voilà, je prends le tracteur. Ça surprend beaucoup. Mais...
Vous êtes une des rares vigneronnes à prendre le tracteur, c'est vrai?
Oui, je pense que tout le monde ne prend pas le tracteur.
Et pourquoi vous le faites, vous?
J'ai ce truc de toujours vouloir comprendre ce que ça va apporter à la vigne. Et aussi, j'ai besoin de connaître mes vignes de A à Z. Je vais labourer, je vais tondre quand il faut, je vais essaimer avant les vendanges, couper quelques branches qui dépassent.
Planter?
Planter, on a eu fait il y a quelques années, 2 parcelles seulement. Mais le reste, ce sont des vieilles vignes, et j'adore ça. Des vieilles vignes qui ont plus de 60 ans, en gobelet, c'est-à-dire en forme d'arbre. Ça donne vraiment envie. En fait, je suis, quand j'y suis dans mes vignes, je suis vraiment en connexion avec la terre, le ciel, et les bruits autour parfois.
Donc il n'y a pas que la dégustation, comme vous avez quand même un palais digne d'une étoilée, on va essayer pour un seul majeur, toujours avec modération bien sûr, de se faire une idée de vos 4 cuvées en vin rouge. Mm-hmm. Et forcément, en discutant avec vous, Isabelle Cardozo-Fonquel, je me suis aperçue que pour le gusto, à chaque cuvée, sa musique.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Alors un peu de Cuba avec Gloria Estefan Mitiera pour votre cuvée baptisée QVK. Alors pourquoi cette musique? Pourquoi ça s'appelle QVK?
Alors QVK, K parce que je fais partie d'une association qui s'appelle Renaissance Carignan pour remettre au goût ce cépage qui est 100% autochtone, qui a été arraché massivement pour laisser la place à d'autres cépages certainement plus vendus à l'export. C'est dommage. C'est un cépage assez rustique, avec beaucoup de tanins. Donc, je suppose que c'est difficile parfois pour certains de le vendre, puisque tout le monde n'adhère pas à ce genre de goût. Mais moi, alors, je vais pousser le carignan à la maturité. C'est vrai que ça fait 14,5 degrés, mais on s'en fiche. On apprécie le fruit dans le vin. Et je vais le vinifier 0 matière verte, c'est-à-dire que après les grappes poires, c'est une machine qui enlève les grappes, ça sépare le raisin. Ça tombe sur une table vibrante, et là, ça sépare les raisins. Et ensuite, ça tombe sur un tapis, et là, on va enlever toutes les pédicelles, c'est-à-dire les petites branches encore qui restent, on enlève tout, pour avoir vraiment que le raisin.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute avec la QVK Gloria Estefan?
Pourquoi? Alors, parce qu'elle parle de sa terre. Terre natale, la nostalgie, et le son, etc. Donc le cas, je l'amène un peu en Guinée-Bissau et en France.
Et qu'est-ce qu'on mange avec tout ça alors?
Avec le cas, si on vient en France, on peut très bien l'accompagner avec l'apéritif, saucisse grillée, pot-au-feu, cassoulet. Et si on va en Guinée-Bissau, on va l'accompagner avec des plats à base d'huile de palme, fruits de palme, de sauce arachide. Au poisson grillé aussi, ça peut aussi aller.
L'eau à la bouche, 2e cuvée.
Ho starto mia nipote, io sono il signor zio. Io sono il signor zio, io sono il signor zio. Mi intendi? Sì, sì, sono io, va via non mi seccar.
Signorita, on est apparemment dans le plat de résistance avec Rossini et son italienne à Alger pour accompagner donc votre cuvée Giocoso.
Oui, alors Giocoso, justement, c'est un terme de musique classique qui veut dire joyeux, Giocoso. Et je pense que les Italiens disent aussi Gioco pour dire une plaisanterie. Mais là, on plaisante pas.
C'est du sérieux.
C'est un vin assez puissant, à base de grenache, 70%, 20% de syrah et 10% de carignan. Donc le grenache, c'est assez puissant. Ce sont des raisins mûrs. Je ramasse à maturité. Donc c'est un vin qu'on peut très bien accompagner avec du bœuf, soit rôti ou grillé, d'autres plats plus raffinés. C'est un vin d'ailleurs qui est souvent servi chez les étoilés ou les restaurants gastronomiques à Paris et ailleurs, au Japon, aux États-Unis, Canada, etc.
Je ne l'ai pas dit, mais votre QVK, en tout cas, est un vin partenaire du Festival international du film Insolite à Rennes-le-Château.
Oui. Ah oui, oui, oui.
Vous avez des partenariats avec certaines de vos cuvées.
Oui, alors j'ai rencontré Fanny Bastien, c'est une actrice française, comédienne, que j'adore. Et donc, elle a goûté le vin, notamment Prima Donne, et elle m'a appelée après, elle m'a dit « Isabelle, j'ai tellement bien dormi. J'ai pas eu mal à la tête. » Je dis, mais je mets pas beaucoup de sulfite en plus dans mes vins exprès. Et après, elle m'a proposé si c'est possible que ma QVK fasse partie
de sa cave.
Du festival du film Insolite. Et que j'ai dit oui.
Troisième cuvée.
Comme on vit dans ça, au Zimbabwe. Quero também contigo, Zimbabwe. Uma dança nova. Mistura de samba com samba, de mambo com rumba. Tua mão na minha e a minha na tua. Balanceie, balançaia.
Ai, 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 ai. Sarah Tavares pour votre cuvée Naïque, Isabelle. Naïque. Dites-nous tout, qui est cette Sarah Tavares?
Sarah Tavares, une chanteuse capverdienne. Et j'adore sa voix et cette mélodie comme ça qui part un peu entre Brésil, Cap-Vert, l'Afrique, vraiment. Dans la musique, elle dit « On va danser comme j'ai vu à Zimbabwe ». Donc elle fait le tour un peu d'Afrique, de Guinée-Bissau et tout ça, et j'adore.
Alors quel lien entre ses origines capverdiennes, entre autres, et votre cuvée Naïque?
Alors le nom déjà Naïque, c'est le prénom de l'une de mes filles.
Naïque, c'est breton?
C'est breton. Et donc,
alors cette cuvée,
c'est un vin à base de deux cépages. Alors 95%, c'est du grenache gris. Pareil, c'est un cépage qu'on trouve dans le sud. On peut le trouver à Châteauneuf-du-Pape un petit peu. Mais c'est plus dans le Roussillon et dans le Languedoc. À la Livinière, ils avaient planté ce cépage il y a très longtemps. Ils avaient un projet de faire une appellation minervois noble. Je suppose que c'était du vin doux. Et finalement, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu la crise, ça a été arraché. Et donc moi, je me retrouve avec deux parcelles seulement de grenache gris. D'ailleurs, sur une parcelle, ils sont complantés, c'est-à-dire grenache gris, noir et 5% de macabeu. Un cépage aussi en blanc. Donc du coup, je fais comme je peux. Il y a des années où je n'ai pas grand-chose. Ouais. J'ai 1700 bouteilles, 2000 bouteilles. Donc c'est un micro-cuvée, mais c'est un vin précieux, élevage en barrique d'acacia. Et fût de chêne aussi. Donc ça donne, acacia, ça donne vraiment côté floral. Mais c'est un vin sec qui accompagne, pareil, les viandes blanches. Pigeon aussi, j'ai eu dégusté chez un étoilé une fois, pigeon avec, c'était très très bon.
À vos tire-bouchons, quatrième cuvée.
That's what you are. Unforgettable.
Sans le goûter, je sais déjà que cette cuvée est unforgettable, donc inoubliable. Déjà, on a la robe de cette cuvée dans la bouche. Merci Diana Washington. Pourquoi ce mariage? C'est le moment, là, pour le coup, d'ouvrir cette cuvée Prima Donna. Isabelle Cardozo-Fonkerl. Ah oui, vous avez le petit tire-bouchon avec le petit coutelas.
Alors, oui, la cuvée Prima Donna. Ah, je trouve, voilà. Cette chanson le voit si bien. C'est un vin qu'on peut effectivement déguster à deux, de manière égoïste.
Même solo.
Hein. Au solo, tout simplement.
Oui, je sais. Et... C'est un spectacle un peu différent, c'est vrai, c'est vrai.
Ou voilà, un restaurant. Alors là, j'avais mis un plat que j'avais en discutant avec un grand sommelier. Donc, il m'avait suggéré un faisan rôti fourré d'une farce aux truffes et au foie gras. J'ai trouvé ça juste magnifique. Et j'imagine, parce que j'aime tout ça.
Ah non, attendez. Voilà. Laura Pinto, qui est derrière la vitre, peut traverser la vitre, je le lui dis, ainsi que Caroline Filliette, grâce à qui on vous rencontre, chère Isabelle. Est-ce qu'on trinque ?
Bien sûr.
Et vous allez tout nous dire. Et là, on va s'adresser à la dégustatrice très professionnelle.
En fait, quand on sert un vin, il y a trois étapes. En fait, il y a l'étape donc visuelle. On va regarder. C'est un vin qui est limpide, brillant. Et on va regarder la couleur. Donc, on est dans le pourpre bien intense aussi. Donc ça vient forcément un peu de grenache, la syrah aussi qui est comme ça, sont des caractéristiques des deux cépages. Et ensuite, on va passer sur le côté olfactif. Donc là, on va sentir le vin, donc la première approche. Donc là, on est vraiment dans le fruit noir, mais sur de cerises noires un peu compotées. Et après, on va tourner le vin dans le verre. Et
quand on tourne en général...
Température de dégustation, on va aller sur le 16 degrés. Pas au-dessus, parce que ce serait un peu trop chaud. Les vins du sud ont besoin un peu de fraîcheur. Et donc là, en fait, une fois qu'on remue le vin dans le verre, on va avoir encore plus des arômes qui vont se dégager, le contact avec l'oxygène. Et donc là, on part sur le côté vraiment épicé, un peu le thym, le chocolat. Donc il y a vraiment le nez de cacao.
Le chocolat ?
Oui, oui, oui. Ça vient aussi d'élevage en barrique, parce que je vais le laisser en barrique 24 mois, ce vin. Donc il y a ce côté cacao qui ressort, ça vient des barriques, parce que j'utilise une barrique qui s'appelle demi-muit, de 600 litres. Vous allez voir, dégustativement, c'est en bouche qu'on va l'avoir. Une fois qu'on déguste après, je fais comme ça, j'amène l'oxygène en fait, dans la bouche, et quand on amène l'oxygène dans la bouche, on va avoir encore plus des arômes explosive en bouche.
C'est magnifique. Qu'est-ce que vous imaginez comme plat qui serait plutôt du côté du Cap-Vert ou de la Guinée-Bissau pour accompagner cette cuvée Prima Donna ?
Alors, pour accompagner Prima Donna, alors plat vraiment traditionnel, je n'irai pas vraiment sur des plats dont j'ai parlé tout à l'heure, base d'huile de palme, parce que ce sont des plats où ils rajoutent quand même pas mal de citron. L'assaisonnement ne va pas forcément aller avec ce vin-là. Mais dans Guinée-Bissau, on a aussi des plats portugais. Donc, calderada, ça s'appelle, de cabrit, de cabri. En fait, calderada, c'est base de pommes de terre, des poivrons, olives. Ça peut aussi aller avec le ketchup.
Et vous êtes à la table de Isabelle Cardozo-Foncarle pour En Sol Majeur. Et je signale que tous ces vins sont partenaires du Festival de Jazz de Marcillac, en France. Oui. Depuis sa création, votre domaine de Loustal Blanc est souvent cité par la presse nationale. Je parlerai juste de Terre de Vin ou de la Revue du Vin de France. C'est pas rien. Et international aussi. Vous avez été cité notamment par le guide Robert Parker Wine Advocate. Ce sont les avocats des grands vins.
Des grands vins, c'est
voilà,
ça.
Qui vous a décerné un 5 étoiles en 2010. Oui. Alors pour En Sol Majeur, il faut rappeler que vous êtes donc une vigneronne noire. Excellente, au cœur du cœur de la culture française. Dans le vin.
Oui.
Ça jase de quelle manière autour de vous, dans votre petit village français ?
Alors, il y en a très peu, je peux les compter. Ça les énerve, certainement.
Ah oui.
Mais je pense que c'est simplement de la jalousie. Et cette jalousie-là, elle est avec d'autres personnes aussi, et pas que moi.
Et puis, il n'y a pas qu'en France.
Exactement. Dans le monde entier même, je peux dire. Je voyage beaucoup, je vois ça et j'entends. Et d'autres, il y a cette curiosité aussi de me poser cette question toujours. Comment tu connais le vin ? Est-ce que tes grands-parents étaient dans le vin ? Est-ce que tes parents ? Pas du tout. Non, 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 j'ai appris. Et puis mon travail.
Voilà.
Persévérance, la ténacité.
Non, le secret, il est double hein, chez vous. Je pense que c'est votre personnalité. Je vous vous êtes devant moi, vous êtes à épouser dans la seconde. Hein. Et puis, il y a aussi votre implication dans la vie citoyenne du coin.
Du coin, hein, bien sûr. Donc, dans les vignes, au syndicat, on organise chaque année le festival des vins du Minervois. Donc, il y a plus de 100 domaines, mais nous étions que 30 à dire oui, faisons-le. Ce festival pour faire connaître l'appellation. Et donc, j'ai participé, je n'ai pas regretté. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je participe, je donne ce que je peux donner au niveau international, faire connaître. Là, bientôt, avec une amie œnologue camerounaise, on risque d'aller en Afrique parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas les vins du Languedoc. Et ben, je serai certainement l'ambassadrice que le vin puisse plaire et être dans les meilleures tables du monde. C'est un objectif, donc ce n'est pas l'objectif d'écouter ce que les autres racontent. Il n'y a rien à dire, mais certains, c'est plus fort que... Mais c'est une minorité. Je veux dire, sur 100%, il y en a 5. Donc pour moi, ce n'est pas important.
À la santé du travail bien fait.
Merci.
Pourriez-vous me fredonner une comptine de votre enfance?
Isabelle.
Alors, je vais essayer.
Même s'il pleut dans le studio, c'est pas grave.
Alors, quand j'étais petite, en fait, j'ai fait pareil hein, avec mes enfants, mes trois filles. C'est-à-dire que quand on tombe, qu'on pleure. Et donc, on a tendance à chanter pour l'enfant. On dit « Que menino na chora, chora monton dadi, galinha cai na coba, balanta fura cumbico, nene o ye ye ye. » En fait, c'est pour bercer l'enfant, pour lui dire « Ne pleure pas, qu'est-ce qui t'arrive ?»
C'est en créole,
c'est un créole. Et donc, en général, quand un adulte chante ça, l'enfant s'apaise tout doucement.
Ouais. Vous avez le nez dans les vignes au quotidien, on l'a entendu, mais vous avez aussi les oreilles qui traînent, par exemple, du côté d'un Tomé Varela da Silva dont vous m'avez parlé.
Oui. C'est un philosophe, un écrivain, un poète capverdien que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il met en avant l'écriture en créole.
Il milite,
exactement. Voilà.
Pour l'usage du créole capverdien dans la littérature.
Et
lui-même, il a écrit en capverdien.
Oui, c'est ça. Il écrit maintenant qu'en créole capverdien. Il fallait oser, parce que, effectivement, les autres, bon, on peut en parler comme ça, mais l'écrire vraiment, et que c'est vraiment, on peut trouver dans le centre culturel, dans les écoles maintenant aussi, qu'on puisse parler cette langue, et pourquoi pas vraiment le garder aussi à l'école, parce qu'en Guinée-Bissau, tout comme au Cap-Vert, dans les écoles, c'est portugais. Bon, si en dehors d'école, qu'on parle créole, bon, la récré, oui, mais dans la classe, c'est du 100% portugais.
Et puis, vous nous avez ramené aussi du Emilio Tavares Lima.
Oui, que c'est pareil. J'adore ses poésies.
C'est un écrivain guinéen qui habite au Portugal.
Oui, il habite au Portugal depuis de nombreuses années maintenant. Oui,
alors, je ne l'entends pas dans cette conversation, peut-être parce qu'il y a la dive bouteille entre nous, je ne sais pas, mais j'entendais au téléphone quand on s'est parlé qu'il y avait quelque chose du créole ou du portugais qui était toujours un peu à fleur de mots comme ça, qui pouvait arriver au détour d'une phrase. On va ranger le tire-bouchon et vous écouter dans un poème que vous nous avez ramené, en portugais donc,
oui.
De Emilio Tavares Lima et qui s'appelle...
Não me peçam explicações. Falar-vos-ei do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, de contangu de cítico combé, de brinde de bagre de cacheu. Falar-vos-ei da importância do setembro para o meu povo. Falar-vos-ei do carnaval da minha terra, da cultura Bijagó, Balanta, Manjaca e Falupa, falar-vos-ei com doçura da terra que me viu nascer, da hospitalidade do meu povo. Disso, sim, eu entendo, compreendo, valorizo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau.
Que raconte cet élixir, cet extrait de Bohème, Isabelle?
Alors, en gros, il dit qu'il aimerait en fait que la diaspora ne lui pose pas la question de ce qui se passe de Guinée-Bissau, parce qu'il ne comprend pas pourquoi les hommes réagissent ainsi. Il aimerait qu'on lui parle des femmes de Guinée-Bissau, des plats de Guinée-Bissau, donc il parle de plats à base de poisson qui s'appelle bagre. Bagre, c'est l'équivalent de lotte en France. Et il parle de manger des mangues vertes avec du sel. Il parle de jouer au foot sous la pluie et avec cette odeur de terre mouillée. Il parle de carnaval, parce que le carnaval en Guinée-Bissau, c'est très important. Donc là, on va voir le défilé du carnaval en Guinée-Bissau. On peut voir chaque ethnie avec sa façon de s'habiller, avec des pagnes ou des jupes pour les bijagos. Donc il parle de ça, il veut voir ça, et donc qu'il est fier d'être guinéen, et les Guinéens sont un peuple qui sait recevoir.
Ouais. Fichez-moi la paix avec la politique, parlez-moi de la vie, quoi.
Voilà.
Alors moi, je vais vous laisser repartir, parce que je sais que vous n'avez pas fini votre travail dans votre domaine, de l'oustal blanc, de la livinière. Je vais vous laisser repartir avec des mots d'hier et d'aujourd'hui. Hier, le poète persan et musulman, Omar Khayyam, disait « Le vin est défendu, car tout dépend de qui le boit. »
Tout à fait.
Et aussi de sa qualité et de la compagnie du buveur. Boire un petit coup, c'est agréable, mais ça dépend avec qui.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, on a Bruno Quenioux, votre mentor, le grand sommelier philosophe, qui dit « Le vin révèle l'âme ». Et pour vous, Isabelle Erdozo Fonkerl?
Je suis d'accord. Quand j'ai commencé à déguster les vins, chaque appellation, voire même chaque vigneron, a son empreinte. Il y a toujours l'âme du vigneron dans un verre.
Vous diriez quoi de votre âme alors, de vigneronne à vous?
C'est difficile, j'aime pas trop parler de moi. Mais j'ai une âme qui est plus dans la sagesse. Je profite de la vie, de ce que la vie m'apporte, la nature et les personnes, les rencontres bienveillantes. Après les problèmes, on en a tous.
Merci au tire-bouchon. Qui a été bienveillant. Et puis merci à Caroline Filliette en particulier,
merci
qui a réussi à vous pister, chère Isabelle Cardozo Fonkerl. On va ouvrir les vitres de cette fin d'émission en sol majeur. Qu'est-ce qu'on va mettre à fond? Est-ce qu'on va mettre... Alors attendez, on a Suprême NTM, je vous laisser trois choix. Hein. Suprême NTM, Georges Brassens ou bien José Carlos Schwartz?
Alors j'irai vers...
C'est un grand écart chez vous.
C'est vraiment un grand écart. Mais j'irai plus pour le présent. José Carlos Schwartz, malheureusement, est mort depuis très longtemps. Mais c'était un musicien, un guinéen, un militant que j'adore.
Proche de Edgar Cabral. Oui.
Tout à fait. Et puis Georges Brassens aussi, parce qu'il est languedocien et que j'adore ses chansons. j'irai plus pour le présent. NTM, du coup, parce que je les ai découverts à Paris à l'époque, et puis Joey Starr, je le connais très bien.
Ah oui, parce que les stars vous draguent, en fait, j'imagine.
Non, je le connais, c'est le parent de ma fille aînée, parce que le père de ma fille aînée, ils ont fait de la musique ensemble, la radio d'ailleurs. Il est d'origine martiniquaise, moi de Guinée-Bissau. Mais il me considère comme un membre de sa famille, et moi aussi. On s'entend très bien, ça étonne beaucoup, mais on s'entend très bien. Et puis, il a créé son magazine Five Star récemment. Mm-hmm. Il m'a fait confiance et m'a dit « je veux te voir dedans ». Et ouais. Puis cette chanson, en fait, j'adhère. « N'est-ce pas traîner ton fils ?»
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. seule issue, la rue. Même quand elle est dansant, c'est pas un souci pour ceux qui s'y sont préparés. Si ça se peut, certains d'entre eux même s'en sortiront mieux. Mais pour les autres, c'est clair, ce sera pas facile. Faut pas se voiler la facile, il suffit pas de vendre des kills. Faut tenir le terrain pour le lendemain, s'assurer que les siens aient bien. Éviter les coups de surin afin de garder son puits intact, son équipe compacte. Soudé, écoute de scanner pour garder le contact. Soudé, suivre de bouger, éviter les zones rouges. Surtout, jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas de conseils à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse, regarde-le. Quand il te parle, écoute-le. Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils, laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il glisse.
J'ai jamais demandé à ta voix. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux, j'y ai vu. C'est un gamin de 14 ans avec le décalage de l'âge. Pour entrevoir, c'était comme un mirage. Plus d'interdits, juste avoir les temps assez longs pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Jusqu'y avec mon père était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines. Surtout celles qui vous tapent comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranche à les liens familiaux. Chaque jour un peu plus, j'avais pas l'impression d'être du côté qu'une caisse à larguer. Donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires d'église. Désolé si je m'émisse,
mais laisse pas traîner ton fils. Apprennent dans la rue, quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? Que t'as pas vraiment ça pue dehors, mais comment ça sent la mort? Quand tu respires, ça mec, t'es comme mort-né. Tu finis borné à force de tourner en rond. Ton cerveau te fait des faux, fait des bons, et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres, tu joues de mieux en mieux ton rôle de Kaira.
Un parfum de vigne en sol majeur à votre santé à tous. Avec modération, évidemment. Émission à retrouver en podcast sur votre application Pure Radio, ou bien sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, enfin ce que vous avez, ou bien derrière votre poste. Ça, ça se passe chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h au milieu des cigales,
oui,
pour certains. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. Demain, on se met à table avec Gulistan Sido. À demain.